bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Épisode 9, la création. Nous avons donc étudié la semaine dernière la Trinité, en essayant de rentrer un peu dans ce mystère de trois personnes en un seul Dieu, dans ce mystère qui est, comme dit le catéchisme, le fondement de notre foi et de notre vie chrétienne. Alors, il nous faut maintenant étudier un autre aspect de la foi chrétienne et de l'essence divine, qui est qu'on trouve au numéro 50 de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique, qui pose la question « Que signifie que Dieu est tout-puissant ?» La toute-puissance de Dieu. Alors la réponse nous dit cela, « Dieu s'est révélé comme le fort, le vaillant. » C'est une citation du psaume 23. « Celui auquel rien n'est impossible, » dit Saint Luc au chapitre 1 de son évangile. « Sa toute-puissance est universelle, mystérieuse. Elle se manifeste dans le fait de créer le monde à partir de rien et l'homme par amour, mais surtout dans l'incarnation et la résurrection de son Fils, dans le don de l'adoption filiale et le pardon des péchés. C'est pourquoi l'Église adresse sa prière au Dieu tout-puissant et éternel, omnipotens sempiterne Deus, comme commence un certain nombre de prières de la liturgie catholique. Alors, vous voyez la toute-puissance de Dieu, il me semble que c'est effectivement un excellent point de départ pour parler de la création, du fait que Dieu a créé le ciel et la terre, qu'il a créé l'univers. Nous allons y venir dans quelques instants. Dieu est tout-puissant et cela doit évidemment être pour nous une source de d'assurance, de foi évidemment, et de sécurité. Voilà. Dieu est tout-puissant, il a tout entre ses mains. Nous parlerons bientôt, dans l'épisode suivant, de la providence, du fait que Dieu gouverne toutes choses, aussi bien les êtres libres que les êtres qui ne sont pas libres. Toutes choses sont entre les mains de Dieu. Et lorsque Dieu crée, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être du récit de la Genèse, en six jours où Dieu, chaque jour, crée quelque chose, et chaque journée se termine par ce verset, « Et Dieu vit que cela était bon. » Dieu fait le bien. En créant, Dieu cause le bien et il transmet le bien qu'il est lui-même, à d'autres pour leur permettre d'y participer. Et Dieu, voilà, Dieu est tout-puissant. Donc souvent, vous savez, de façon très pragmatique, lorsqu'on est traversé par des épreuves, lorsqu'on avance vers le désespoir, parfois lorsqu'on est submergé par telle ou telle tentation, telle ou telle épreuve, telle souffrance, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, eh bien, il faudrait savoir se tourner vers cette toute-puissance de Dieu et lui dire « Mon Dieu, tout est entre vos mains, vous savez ce que vous faites, je veux vous faire confiance. » Je vous raconte cette petite anecdote qu'on trouve, je crois, dans un poème dont l'auteur m'échappe tout de suite, mais qui raconte cette histoire qu'il voit en songe des deux traces de pas qui sont côte à côte dans le sable, sur une plage, et il a cette révélation pendant son songe de Jésus qui lui dit « Regarde ces traces de pas, c'est moi qui marchais tout au long de ta vie à tes côtés. » Et puis, en regardant un peu mieux, il voit qu'à certains endroits, il n'y a qu'une seule trace de pas. Et donc, il regarde et puis il se rend compte qu'en fait, c'était le moment justement où il était dans l'épreuve et où ça n'allait pas. Et alors il demande au Christ, mais Seigneur, pourquoi dans l'épreuve, pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné? C'est là où j'avais besoin le plus de vous. Et le Christ lui répond, lorsqu'il n'y a qu'une seule trace de pas, c'est moi qui marche et je te porte dans mes bras. Alors, évidemment, c'est une petite, anecdote spirituelle qui a pour but de peut-être de manifester Cette toute-puissance de Dieu qui s'exerce non seulement dans son gouvernement de l'univers, mais jusque dans notre relation personnelle avec lui. Et finalement, le chrétien doit voir toutes les épreuves comme étant permises par Dieu pour un plus grand bien. Parce que notre foi en la puissance de Dieu, en sa bonté, doit être plus forte que tout. Alors disons souvent, c'est cette prière, « Dieu tout-puissant et éternel ». Voilà, Dieu qui avait tout entre les mains, je me remets à vous. Ça fait partie de ce que chantent les religieux, les religieuses, les prêtres dans l'office du bréviaire, dans l'office des complis, tous les soirs. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est évidemment une phrase qui est tirée de l'évangile, qui vient du prophète, du vieillard Siméon, au moment de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Maintenant que j'ai vu le salut d'Israël, je peux m'en aller en paix. Vous pouvez me laisser partir en paix. Et je remets, Seigneur, mon esprit entre vos mains. Alors, revenons à de la théologie, non plus spirituelle, mais plus dogmatique, avec une dernière réflexion sur cette toute-puissance de Dieu, puisque le catéchisme nous dit qu'elle se manifeste dans la création, à partir de rien, c'est-à-dire que Dieu a tout fait, mais elle se manifeste aussi dans l'œuvre que Dieu a réalisée dans le monde, par amour envers l'homme, et donc surtout dans l'incarnation, la résurrection, puisque Dieu se fait homme. Il meurt, il se ressuscite pour prouver sa puissance et sa divinité, et aussi par le don de l'adoption filiale, c'est-à-dire la grâce et le pardon des péchés. D'ailleurs, nous aurons l'occasion aussi d'y revenir, mais c'est exactement de cette façon, c'est l'une des façons que le Christ emploie pour montrer aux Juifs qu'il n'est pas un simple prophète, mais qu'il est Dieu lui-même. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode dans l'Évangile où on amène au Christ un paralytique, on l'amène devant lui et en lui demandant de guérir évidemment le paralytique. Et le Christ lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Alors les Juifs se scandalisent parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul peut effacer le mal que j'ai commis dans ma vie, dans le passé. Et un homme, si j'ai commis une injustice envers quelqu'un, il peut effacer l'injustice, mais il ne peut pas effacer l'acte mauvais que j'ai commis. Dieu, par contre, lorsqu'il pardonne le péché, eh bien, il efface le mal qui a été commis. Et donc les Juifs se scandalisent et disent au Christ, mais comment ose-t-il dire cela alors que Dieu seul peut remettre les péchés ? Et le Christ, pour prouver la véracité de ce qu'il vient de dire, et donc pour prouver qu'il est Dieu, guérit évidemment le paralytique en lui disant « Lève-toi et marche ». Ce que ça nous enseigne d'ailleurs, c'est que Dieu est venu pour nous sauver du mal et du péché, et que finalement, nos épreuves physiques, comme l'était la paralysie ou la maladie pour ce paralytique, sont permises par Dieu afin qu'il manifeste sa puissance et sa divinité. Et que finalement, nous avons tous nos fragilités, nos infirmités à porter, et que c'est peut-être ça qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, et que Dieu vienne nous faire miséricorde, c'est-à-dire nous mener au bien et nous pardonner le mal que nous avons fait. Alors, question suivante, on passe maintenant à la question plus précise de la création. Pourquoi est-il important d'affirmer au commencement Dieu créa le ciel et la terre, comme l'énonce le premier verset du premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire le début de la Sainte Écriture, tout simplement, de la Bible. La réponse est la suivante. Parce que la création est le fondement de tous les projets divins de salut. La création est la manifestation de l'amour tout-puissant et sage de Dieu. Elle est le premier pas vers l'alliance du Dieu unique avec son peuple. Elle est le commencement de l'histoire du salut qui culmine avec le Christ. Elle est la première réponse aux interrogations fondamentales de l'homme sur son origine et sur sa fin. Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est un texte qui est très bénédictin au sens de Benoît XVI. Vous vous souvenez que cet abrégé a été travaillé, rédigé dans sa majeure partie par Benoît XVI, et qui, dans d'autres circonstances, d'autres conférences, a manifesté, a développé ce point, ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance, à savoir que Dieu agit dans le monde depuis la création, puis à chaque fois qu'il intervient dans le monde par ses prophètes, évidemment en Jésus-Christ, et par la grâce et par son Église dans la suite de l'histoire. La création, donc, est la manifestation de l'amour tout-puissant et sage de Dieu. Et j'aimerais insister là-dessus, même si on y reviendra un peu plus tard. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? On pourrait se dire, en fait, Dieu était bien tranquille en lui-même, il n'avait absolument pas besoin de créer. Dieu n'avait pas besoin d'être reconnu par d'autres, d'être connu par d'autres. Dans l'infinité et la perfection de sa vie intime, il se suffisait évidemment à lui-même. Et vous voyez d'ailleurs le lien avec le mystère de la Trinité dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Dieu n'était pas seul au monde. Dieu, puisqu'il y a trois personnes, et bien ces trois personnes dans une relation d'amour et de complaisance, de connaissance, d'amour et donc de perfection mutuelle, se comblaient infiniment. Donc Dieu n'a pas du tout besoin de créature pour manifester sa gloire. Néanmoins, il décide de créer. Et si l'on part de ce principe, donc de la perfection de Dieu, eh bien on comprend ce que signifie la bonté de la création. Dieu crée le monde parce qu'il veut permettre à d'autres êtres de participer à sa propre perfection. Je répète, Dieu crée le monde et il donne l'existence à d'autres êtres, en particulier des êtres intelligents comme le sont les anges ou les hommes, pour permettre à d'autres de participer à son bonheur et à sa perfection. C'est en quelque sorte un geste de pure générosité de Dieu. Voilà. Dieu n'a besoin de rien, mais il veut, parce qu'il est libéral, dans le sens de la vertu de libéralité, il veut que d'autres puissent eux aussi jouir de sa perfection et connaître la grandeur, la magnificence de sa perfection. Et donc, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, hommes, Dieu nous a donné existence avec notre personne, avec notre histoire, avec même nos faiblesses, nos défauts, etc. Parce qu'il attend, non pas parce qu'il attend de nous quelque chose comme si on lui devait quelque chose, mais par pure bonté, par pure générosité. J'aurais pu rester dans l'intellect divin et ne jamais advenir à l'existence. Mais si Dieu m'a créé moi-même, c'est pour me permettre de le connaître et de l'aimer dans l'infinité de son essence, de ce qu'il est. Alors, c'est important, il me semble, d'avoir ça en tête, puisque c'est comme ça qu'on comprendra, comme on le dira plus tard, le destin de l'humanité et la destinée de chacun des hommes, à savoir de connaître et d'aimer Dieu dans l'éternité du paradis, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu. Alors, donc l'œuvre de la création est une œuvre de pure bonté et elle est le début, en fait, de l'histoire du monde avec Dieu. Ça, c'est aussi un aspect, il me semble, qu'il faut souligner. Dieu n'a pas créé le monde au début, vous voyez, comme un horloger qui aurait fabriqué un truc très précis en disant maintenant, ça roule tout seul, qu'il se débrouille. Non, non, la création n'est que la première œuvre de Dieu dans le monde qui, sans arrêt, au cours de l'histoire de l'humanité, au cours de l'histoire de l'univers, intervient sans cesse avec délicatesse, avec puissance, avec précision, pour que tout tourne au bien de ce qu'il aime et à la manifestation de sa gloire. Alors, question 52, qui a créé le monde ? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont le principe unique et indivisible du monde, bien que l'œuvre de la création du monde soit particulièrement attribuée à Dieu le Père. Donc comme nous l'avions dit lorsque nous avons étudié la Trinité la semaine dernière, eh bien les œuvres à l'extérieur, les œuvres ad extra, sont toujours des œuvres de Dieu trinitaire. C'est-à-dire que, à part dans l'incarnation, et dans la manifestation du Saint-Esprit, qui sont des cas très particuliers, tout ce que Dieu fait en dehors de lui-même sont des œuvres des trois personnes ensemble. Donc le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, qui sont le principe unique de toute chose, en particulier de toute chose créée, de toute la création. Alors évidemment, on attribue la création davantage au Père, parce que, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, il est, comme le dit saint Thomas d'Aquin, toutes les œuvres de Dieu ad extra, à l'extérieur de son essence, ont pour raison et cause l'une des processions, des processions ad intra, donc dans l'intimité de son essence. Et donc le fait de créer, on le comprend bien dans cet exemple-là, le fait que Dieu crée reproduit d'une certaine façon la génération en Dieu entre le Père et le Fils. Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi-même pour donner l'être à un autre. Évidemment, la génération entre le Père et le Fils est éternelle, alors que la création de Dieu trinitaire vers le monde est une création dans le temps. C'est d'ailleurs le moment, sûrement, puisque je mentionne le temps, de se poser cette question. Parce que quand on parle de la création, au catéchisme, souvent, les esprits les plus aiguisés pose la question, mais alors, est-ce qu'il y avait du temps avant la création? Ou bien, qu'y avait-il avant la création? Eh bien, c'est ça le mystère de la création, à savoir que, comme on va le dire tout à l'heure, Dieu a créé le monde à partir de rien, ex nihilo. Donc non seulement il n'y avait pas d'être, à part Dieu, avant la création, il n'y avait aucun esprit pour le penser, mais il n'y avait pas même de temps ni d'espace. Alors là, effectivement, ça devient quelque chose de très difficile à penser, en tout cas à se représenter. On peut le penser intellectuellement, rationnellement, mais c'est impossible de se le représenter, puisque nous, toutes représentations sont toujours des représentations en trois dimensions et dans le temps. Donc, on ne peut pas se représenter un monde sans espace ni temps. Alors on peut abstraire, c'est ce que font les mathématiciens qui créent des espaces multidimensionnels, etc. Mais on peut le penser, mais on peut pas se le représenter. Alors néanmoins, c'est la conclusion logique de cet enseignement. Avant la création, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas même d'espace et de temps. Donc, si le monde a commencé, eh bien néanmoins, Dieu n'a pas, pour ainsi dire, changer dans le temps. C'est-à-dire que Dieu ne change pas dans le temps. Dieu, quand il agit dans le monde, eh bien, néanmoins, il reste toujours identique à lui-même. Il faut se représenter, si on veut essayer de trouver une représentation, il faut se représenter le temps non pas comme une ligne, mais plutôt comme un cercle que vous dessinez sur votre feuille de papier. Et Dieu n'étant pas à un point du cercle, mais Dieu étant au-dessus, comme le sommet d'un cône, dont ce cercle est la base. Et donc Dieu est à égale distance de tous les points du temps. Ça nous permettra d'ailleurs de répondre à une objection qui nous viendra, en particulier la question du mal que nous examinerons la semaine prochaine, ou la question du péché originel dont nous parlerons dans quelques épisodes. Oui, Dieu sait à l'avance ce qu'il va se passer, parce qu'il est hors du temps, parce qu'il est comme ce sommet par rapport à la base circulaire du cône. Nous sommes sur le cercle, donc nous avançons, portés par le temps qui avance inexorablement, comme dit la chanson, mais Dieu, lui, est en dehors du temps. Donc il sait ce qui a eu, il est comme à égale distance de tous les points du temps, du passé, du présent et de l'avenir. Mais cela n'enlève pas notre liberté. C'est sur cette question qu'il faudra insister, mais notre liberté, c'est pas parce que Dieu a déjà vu le film qu'au moment où le film est tourné, je n'ai pas eu la liberté de faire telle ou telle action ou de dire telle ou telle phrase. Alors, donc Dieu est en dehors du temps et au moment où il crée la Terre, c'est au commencement. Voilà. Il n'y avait rien au moment où il crée l'univers. Alors, question 53. J'ai déjà abordé un peu cette question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qui a voulu manifester et communiquer sa bonté, sa vérité et sa beauté. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, dans le Christ, puisse être tout en tous, comme dit la première épître aux Corinthiens, pour sa gloire et pour notre bonheur. Là encore, il me semble intéressant d'insister sur le fait que les choses n'échappent pas à Dieu. Voilà, la toute-puissance de Dieu et sa simplicité retiennent comme entre ses mains l'immensité de la diversité des situations, des choses qui sont intriguées, qui sont liées les unes aux autres. Néanmoins, rien ne lui échappe. Et le but de la création est cette réconciliation de toutes choses en Jésus-Christ. Voilà, comme nous le verrons, le rôle du Christ dans cette histoire de l'univers, c'est de réconcilier toutes choses, de réunir toutes choses pour les ramener dans l'unité de Dieu, puisque Dieu en est la cause, et donc pour de ramener toutes choses vers leur cause et leur origine. Et comme le dit cette réponse du catéchisme, eh bien, le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qui a voulu manifester et communiquer sa bonté, sa vérité et sa beauté. Voilà, on peut anticiper un peu ce qu'on dira plus tard, mais l'homme est fait, Dieu a créé l'homme, nous sommes faits chacun d'entre nous pour connaître la bonté, la vérité et la beauté de Dieu. Voilà ce qu'est le but de chacun d'entre nous, qui que l'on soit, quel que soit notre point de départ, c'est cela. Voilà. Et c'est cette bonté, cette vérité, cette beauté ineffable, infinie, qui nous dépasse infiniment, évidemment. Dans le catéchisme, on trouve, dans cet abrégé, on trouve cette citation de saint Irénée. Vous savez, saint Irénée, c'est un des premiers évangélisateurs des premiers disciples de saint Jean. Saint Irénée de Lyon, donc un des premiers évangélisateurs de la Gaule, au IIe siècle. Il dit ceci: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Voilà, il y a un rapport entre Dieu et l'homme de connaissance et d'amour. Alors on peut conclure cette réflexion sur la création avec la dernière question, numéro 54. Comment Dieu a-t-il créé l'univers ? Dieu a créé l'univers librement, avec sagesse et amour. Le monde n'est pas le produit d'une nécessité, d'un destin aveugle ou du hasard. Dieu a créé de rien, donc ex nihilo, un monde ordonné et bon, qu'il transcende à l'infini. Dieu conserve sa création dans l'être et il la soutient, lui donnant la capacité d'agir et la conduisant vers son achèvement par son Fils et par l'Esprit-Saint. Alors je réponds immédiatement à une objection, puisque qu'on parle de Dieu créateur qui est bon, etc., on dit oui, mais pourquoi tant de souffrance dans le monde ? Alors il faudra répondre, ce sera l'objet du prochain épisode, répondre à l'objection du mal, tenter en tout cas d'essayer de répondre à l'existence du mal et à cette objection évidemment de la souffrance. Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Mais pour l'instant, le point de départ, c'est que Dieu est bon et il ne fait que le bien. Et donc, l'objection du mal ne vient qu'après cette conviction que Dieu est tout-puissant et que tout est entre ses mains, y compris le mal et la souffrance. Alors on verra que c'est évidemment pas Dieu qui a créé le mal, puisqu'il ne peut faire que du bien, mais que le mal est entré dans le monde à cause du péché, c'est-à-dire à cause de la liberté et de ceux, nous sommes tous concernés, qui font le choix de s'opposer à ce dessein de Dieu, à ce pourquoi Dieu avait créé ses créatures. J'ajoute ici une petite réflexion, puisque, comme je viens de le dire, le monde n'est pas le produit d'une nécessité ou d'un destin aveugle ou du hasard. C'est l'une des plus grandes souffrances, il me semble, de l'homme contemporain, que de croire qu'il n'est que le produit d'une nécessité absurde, soit purement mécanique, soit d'un hasard dont personne ne serait responsable. Avec cette histoire d'évolutionnisme. Alors, on reviendra sur cette question au moment de la création. On va étudier comment Dieu a créé le monde dans les 6 jours de la création, etc. Et le rapport avec le Big Bang, avec ce qu'en dit la science, etc. On y reviendra dans quelques épisodes. Mais je m'attarde ici sur les conséquences de ces théories qui semblent modernes, mais qui finalement sont assez anciennes, parce que déjà Démocrite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, oui, prétendait que l'homme n'était que le fruit d'un atomisme absurde et du fruit du chaos. Les choses ne seraient que le fruit d'atomes qui se rencontrent complètement par hasard, et que d'ailleurs il y aurait une multitude d'univers dans lesquels il y aurait des hommes à plusieurs bras, et avec trois bras et quatre jambes, parce que nous ne serions que le fruit du hasard. Quelle tristesse finalement que de se penser comme n'étant voulu par personne, aimé par personne, et n'étant que le résultat d'un chaos ou d'un mécanisme qui n'est dans les mains de personne. Peut-être la machine de l'univers qui aurait échappé, enfin, sans créateur, donc qui se serait fait toute seule comme une espèce de monstre. Et je pense qu'on a là la source de beaucoup de souffrances de l'homme moderne, et de beaucoup d'individualisme aussi, parce que si je n'ai de compte à rendre à personne, si personne ne m'a voulu, alors je n'ai qu'à profiter du monde et profiter des autres au maximum, puisque de toute façon, ma vie n'a aucun sens. Alors, soyons chrétiens, au contraire, croyons dans cette puissance de Dieu créateur qui nous a voulu, qui nous a aimés, qui nous connaît et qui attend quelque chose de nous, qui attend le bien, pour répondre à sa propre bonté. Comme toujours, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique et surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.